Bien, bonjour à tous. Donc, Hélène nous a présenté un peu le contexte général de notre sous-direction. Donc, moi, je vais vous présenter quelque chose qui rentre directement sur les aspects système d'information géographique, ou en tout cas accès à de l'information géographique, puisque dans la sous-direction, il y a en fait trois sous-ensembles. D'une part, le bureau des usages, où nous sommes tous les deux. Le bureau des ressources multimédia pour lequel je suis moi en fait à cheval sur les deux bureaux, je suis à 50% dans l'un et dans l'autre, et du coup je travaille relation usage-ressources. Et puis il y a un troisième bureau qui est celui de la formation, et qui d'ailleurs à un moment donné va sans doute être concerné par le problème justement de ces formations OSIG entre autres. Et nous sommes, il y a des pistes qui commencent apparemment à sortir. Donc moi, ce que je vais vous faire, c'est vous parler donc d'un service qui, dont vous avez tous entendu parler au moins du système qui s'appelle Géoportail. Et dans ce système de Géoportail, il y aura différents services, dont un service donc qui s'appelle EduGéo et qui sera un service éducatif. Et c'est de cela que je vais vous entretenir. Alors le contexte institutionnel, il est double. Il est d'une part le fait qu'il y ait eu une signature officielle. Ça a été dur, ça a été long, ça a commencé il y a presque 10 ans, les négociations avec l'IGN, mais aujourd'hui elles ont abouti. Et on a un accord donc très officiel qui a été signé à la fin novembre ou début décembre, je ne sais plus, et qui fait que nous allons faire en commun d'une part un service EduGéo, sur le qui sera une version éducative du Géoportail, et d'autre part le fait que on va promouvoir ensemble cet outil. Le deuxième contexte, il est lui plus général, c'est le contexte européen, et en fait c'est là-dedans que tout cela s'inscrit. C'est une directive qui est d'origine européenne, de la Commission européenne, qui est ce qu'on appelle la directive INSPIRE, qui initialement est une directive dont on va voir tout à l'heure le contenu un peu plus précisément, mais dans lequel le Géoportail est un ensemble français de quelque chose à l'échelle européenne qui devrait progressivement se développer et qui serait en gros, entre guillemets, un Google Earth européen, mais avec des conditions politiques de métadonnées et d'accès des citoyens européens à l'information géographique et environnementale bien précise. Alors, par ailleurs, dans le contexte purement de notre sous-direction, et Hélène en a parlé, le géoportail éducatif s'inscrit dans la mutualisation des travaux académiques que nous menons, et en particulier une action SIG qui a commencé il y a un certain nombre d'années, avec le prêt d'un certain nombre de logiciels par la société ESRI, je crois qu'il y a un représentant dans la salle. On a commencé un peu laborieusement, et puis aujourd'hui, ça prend de l'ampleur, et il se trouve que, aussi bien Guy Ménant l'a souligné, les inspections générales de SVT que d'histoire géographie sont tout à fait partie prenante et ont une volonté très très claire d'introduire ces outils dans les cursus. Donc, le travail, en fait, aujourd'hui, à travers les actions qui avaient déjà été enclenchées, plus maintenant l'appel d'offres des actions mutualisées et académiques dont Hélène a parlé, on peut considérer qu'avec les premiers retours que l'on a, on a à peu près la moitié des académies qui sont impliquées dans les actions SIG, SVT et Histoire-Géographie. Au dernier retour qu'on a eu, apparemment, il y a encore 3 académies supplémentaires qui s'inscrivent. On va presque couvrir les 2/3 de la France sur des actions SIG dans les deux disciplines, ce qui est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire que la notion de généralisation peut déjà commencer à se mettre en place. Donc, le soutien des... voilà. Alors, la directive INSPIRE, je vous ai pris les sources officielles. C'est une réunion qui s'est tenue à Paris à propos de la directive INSPIRE à ce qu'on appelle la DGME, la Direction Générale de la Modernisation de l'État, et qui dépendait, dans l'avenir, je ne sais pas de qui elle dépendra, directement de COPE. Et c'est une directive de la DG Environnement de la Commission européenne. Et donc, il s'agit vraiment de mettre à la disposition, il faut mettre une infrastructure européenne qui permette de mettre l'ensemble des informations géographiques spatialisées, qu'elles soient géographiques, environnementales, SVT, tout ce que vous voulez, à la disposition des citoyens européens. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes, nous, dans un cadre totalement institutionnel. C'est-à-dire qu'en fait, et du Géo, c'est pas une volonté, comme cela, un peu une idée en l'air de la sous-direction, c'est que nous avons eu, nous et d'autres ministères, dans le cadre de la direction Inspire, le fait que la DGME, donc Direction Générale de la Modernisation de l'État, a demandé à ce qu'un certain nombre de ministères s'inscrivent directement dans cette directive Inspire pour traduire en France, à travers le géoportail, cette directive européenne. Et un sous-ensemble qui est inclus à l'intérieur du géoportail, c'est donc ce service et du Géo. Donc, évidemment, il y a un contexte plus général. Si du Géo, du moins si le géoportail a vu évidemment la vie, et si la directive Inspire s'est mise en place, c'est essentiellement aussi pour une réponse stratégique de l'Europe face à des systèmes tels que, ben, vous en avez plusieurs, Google Earth, qui est le plus fort, mais c'est aussi Worldwind, qui pour moi est le plus scientifique, et puis la réponse aussi de Microsoft, qui s'appelle Virtual Earth. Donc en réalité, nous sommes dans un contexte d'une réponse stratégique de la Commission européenne face à quelque chose qui est l'activité des sociétés américaines sur la maîtrise de l'information géographique. Il faut aussi avoir cela en tête quand on réfléchit bien à ce qu'est Google Earth. C'est un point important. C'est donc pour nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aboutissement de plusieurs années de négociations avec l'IGN. Et ça a très bien marché. Là, il y a eu une volonté, alors bien sûr portée par une volonté politique, hein, puisque ça a été quelque chose, on nous a clairement, tant du côté de l'IGN que du côté des autres ministères, on a eu des lettres qui nous sont tombées pratiquement de... C'était une annonce, si vous en souvenez, qui a été faite en janvier 2006 par le président de la République précédent, ou encore en activité, dans laquelle il a annoncé au vœu des fonctionnaires le fait de mettre en place, dans le cadre d'Inspire, justement, un géoportail qui est d'ailleurs qui existe, par exemple, sur le canton de Genève. Il y en a un équivalent qui est en train de se développer en Belgique. Les Allemands, si vous regardez, en tout cas dans certains Länder, ont quelque chose aussi qui existe. Et progressivement, l'idée est effectivement d'arriver à ce qu'il y ait vraiment, à l'échelle européenne, complètement un système de géoportail ou autre chose, peu importe. Ça, il y aura un géoportail des géoportails. Pour nous, en tant qu'historiens géographes, vous savez que c'est la mise en avant de l'analyse des nouveaux territoires, de leur aménagement, et donc ça rentre complètement dans la géographie. Et l'idée, l'inspection générale, que ce soit le doyen Michel Agnurel ou que ce soit Bruno Mélina qui directement travaille avec nous dans le comité de technique du géoportail éducatif, c'est lui donc qui, au nom de l'inspection, travaille avec nous. On est totalement donc dans l'idée des programmes actuels et des nouveaux programmes et l'analyse des nouveaux territoires, de l'aménagement et sans doute, d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, de la réflexion sur les nouveaux programmes de collège. Et puis enfin, tout le monde l'a signalé précédemment, il y a les socles communs et nous sommes tout à fait dans la directive donc du socle commun. Alors, avec l'inspection générale de l'histoire géographie pour lequel on a maintenant un travail avec lequel on a un travail très étroit. On a défini en fait trois niveaux. Guy tout à l'heure posait le problème de la simplicité. On a défini nous trois niveaux avec Guy Ménan et Michel Agnurel, qui sont les deux inspecteurs généraux et qui ont travaillé le plus directement. Un niveau d'abord, c'est la commande initiale. Un niveau simple d'outils en ligne abordables par les enseignants de façon quasi naturelle. Vous savez très bien que nous avons, mais c'est vrai aussi en SVT, on est en fait dans une discipline où il y a deux disciplines, c'est l'histoire et la géographie. Vous avez les naturalistes biologistes et les géologues. Et il est évident qu'il nous faut des outils relativement simples pour amener l'essentiel de la discipline qui est couverte par à peu près 80 à 85% d'historiens à des choses qu'ils n'ont pas naturellement forcément eu à maîtriser comme quelqu'un qui vient plutôt de la géographie. Donc un niveau d'outils, un niveau 1, un outil simple, abordable par tout le monde pour une prise en main assez rapide. Ensuite, un niveau 2, qui sont des outils SIG simples, en ligne ou hors ligne. Je dirais tout à l'heure, cet après-midi, je ne sais pas si c'est ce matin ou cet après-midi, que Jean-Marc Bonnefoy, justement, peut, avec son produit, répondre à ce niveau 2. Et puis, il y a un niveau 3. Là, c'est celui utilisé par, disons, les pionniers de nos équipes académiques de travail, qui travaillent depuis 5 ans, depuis 6 ans, voire pour certains plus, et qui maîtrisent des outils du type ParkView, du type Geomedia et compagnie, qui sont des outils beaucoup plus lourds, mais pour lesquels, évidemment, l'enseignant commun, il n'ira jamais rentrer dans des outils comme ça. Ça sera plutôt les pionniers, mais il faut les garder, car il faut quelque part avoir une prospective des gens qui continuent à défricher le terrain. Les conditions de développement donc de ce produit et du Géo. Alors, la première chose, donc la maîtrise d'ouvrage conjointe, elle est donc dans le cadre de l'accord, le ministère et l'Institut Géographique National. La définition des spécifications, elle se fait par le ministère en relation donc inspection générale et un groupe d'experts. Ce groupe d'experts géographes ou historiens d'ailleurs sont de l'ordre de 5 collègues qui travaillent depuis maintenant 5 à 6 ans dans le groupe. Jean-Marc Bonnefoy qui est là en fait partie. Donc on a 5 collègues qui sont vraiment qu'on a réunis, qui sont le pilier et avec lesquels on a défini ce que peut être un outil, le tout sous le pilotage donc de l'inspecteur général Mélina. Actuellement, je viens de le recevoir vendredi, on le finalise totalement lundi prochain. On a un cahier des charges de technique, le CCTP, avec une maîtrise d'œuvre qui est suivie par l'IGN. Nous allons finaliser lundi prochain complètement ce cahier des charges techniques qui couvre tous les aspects possibles et inimaginables. C'est vraiment des spécialistes, ça a été fait par des gens qui, au sein de l'IGN, sont les gens spécialistes de tout ce qui est la production du cahier des charges. Et ce cahier des charges, il est quand même calqué en grande partie, sauf la partie pédagogique évidemment, sur le géoportail. C'est-à-dire que un collègue, Marcel Mangin, qui a travaillé beaucoup sur la clé USB dont on a parlé tout à l'heure pour l'histoire géographie, et moi-même, nous sommes par ailleurs participants au comité d'experts du géoportail avec les autres ministères. C'est-à-dire que nous intervenons directement pour exprimer les besoins du ministère au sein du comité de pilotage du géoportail. Donc en fait, on est à différents niveaux impliqués dans l'opération. Et à la demande de l'inspection générale, il y a des études de cas qui vont être faites. Vous avez sans doute entendu parler d'un premier produit qui avait été fait par la chimie de Créteil avec l'IGN qui s'appelle Géolecture. Et en fait, sur le modèle de Géolecture, eh bien, il y a déjà 11 zones et thématiques qui ont été définies. Vous verrez ensuite lesquelles. Et en fait, on va faire un appel avec l'inspection générale auprès des inspecteurs pédagogiques régionaux des restants de la France pour qu'il y ait 30 études de cas qui couvrent l'ensemble du territoire français pour les 19 autres académies qui, pour l'instant, ne sont pas touchées par les 11 thématiques que nous avions définies au départ avec Bruno Mélina. Le recettage se fera conjointement, évidemment, avec l'IGN. Le recettage, hein, c'est le fait de recevoir l'outil, de le vérifier, de regarder les bugs, enfin de faire tout ce qui est nécessaire pour que l'outil soit opérationnel. Le recettage sera fait conjointement par l'IGN et par nous. Et un certain nombre d'établissements seront choisis pour tester au fur et à mesure du recettage jusqu'à la phase finale du produit, la validité du produit, corriger les bugs, corriger éventuellement des aspects ergonomiques qui nous auraient échappé, etc. Et enfin, livraison finale, qui en principe est prévue, c'est quand même un outil non négligeable à développer, qui normalement est prévu dans le calendrier à la rentrée 2008. Mais il y aura déjà, dès début, un outil qui apparaîtra en janvier 2007, mais qui ne comprendra pas tout ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, quel est le modèle économique? Parce que dans un cas comme ça, il y a un problème de modèle économique. Le modèle économique a été choisi par le bureau C2 des ressources multimédia, piloté par Gilles Braun, est un modèle qui est, pour les historiens géographes que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle le modèle de l'INA, les jalons de l'histoire pour le temps présent, c'est-à-dire que c'est un modèle par abonnement. C'est-à-dire que l'IGN ne souhaitait pas, pour des raisons stratégiques, qu'on ait accès dans n'importe quelle condition à sa banque de données. Vous allez voir qu'on a quand même une banque de données très très complète. Donc, en fait, il y aura un abonnement, exactement comme vous vous abonnez au Jalon d'Histoire, et avec l'accès à tous les outils. On pense, à la demande d'ailleurs des collègues du groupe de travail qui sont dans le comité technique pour définir le cahier des charges, qu'on est en train de négocier avec l'IGN un accès gratuit pendant un premier trimestre pour que les collègues d'histoire-géographie, ou de SVT d'ailleurs, puissent accéder et voir ce qu'est ce produit, à partir de quoi, au bout du trimestre, eh bien, si vous voulez continuer à travailler dessus, vous devrez à ce moment-là passer un abonnement, comme pour les Jalons d'Histoire, comme pour l'INA. Alors, l'abonnement est conçu de telle façon qu'il prévoit les droits de reproduction graphique et de représentation électronique, c'est-à-dire que vous pourrez tout à fait l'utiliser, le mettre sur les sites de votre établissement, sur l'intranet de votre établissement ou l'extranet de l'établissement. Vous pourrez le mettre, à la limite, en ligne sur le NT de l'Académie. Vous pourrez, nous, avec Edubase, justement, on pourra à ce moment-là mettre tout ça là dans la mutualisation. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est que vous puissiez publier pour les autres les travaux, sachant que vous allez voir, il y a en plus un forum qui est là et une version wiki qui vous permettra d'échanger à l'intérieur de l'espace d'EduGéo vos travaux. C'est-à-dire que vous déposerez vos travaux avec éventuellement les données associées. Et à partir de là, vous pourrez aller rechercher les travaux de quelqu'un qui a fait un travail sur Marseille, si vous êtes à Lille ou à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Le service, par contre, est clairement défini. Il y a un engagement qui sera, vous serez obligé de cocher un engagement, vous et votre chef d'établissement, comme quoi le produit que vous allez faire, les utilisations que vous allez faire, seront à des fins pédagogiques, strictement non commerciales. Il faut que les choses, là, c'est clair. Si vous travaillez pour un éditeur, ça arrive, hein, il y a des collègues qui travaillent pour des éditeurs, et bien l'éditeur devra négocier avec l'IGN autre chose. Hein, c'est un contrat, nous c'est une convention ministérielle, étatique, dans laquelle les droits de l'IGN sont totalement protégés, c'est à but purement pédagogique non commercial. Alors quel est l'ensemble de données auxquelles vous aurez accès ? Alors, on a négocié donc d'une part ce qu'on appelle le scan 25 et le scan 100, c'est-à-dire la cartographie au 25 millième et la cartographie au 100 millième numérique. L'ABD ortho, donc c'est tout ce qui est la photographie aérienne ortho-rectifiée. Hein, c'est la photographie aérienne que vous voyez déjà sur le géoportail à 50 cm de résolution. L'ABD topo est y compris le modèle numérique de terrain, c'est-à-dire que vous pourrez donc faire du 3D avec l'outil, sachant, j'anticipe un peu les questions que vous pouvez poser, sachant que le modèle numérique de terrain de l'IGN est, par rapport au modèle numérique de terrain utilisé actuellement par Google Earth, nettement plus fiable et plus précis, puisque Google Earth utilise ce qu'on appelle le modèle de numérique de terrain de la navette spatiale, qu'on appelle le modèle numérique SRTM, alors que l'IGN, c'est un modèle numérique de terrain issu des satellites spot français, avec des capacités de l'ordre de taux d'erreur au modèle numérique de terrain de entre 50 cm et 1 mètre selon le relief. Donc vous aurez donc là quelque chose de beaucoup plus fin dans la représentation 3D du relief. Et puis la BD Carto, bien c'est toute l'occupation des sols. Donc vous pourrez accéder à l'occupation des sols et utiliser cela directement en plus de la carte topographique. C'est-à-dire, cette fois-ci, la BD Carto, c'est vous avez la capacité à isoler une couche, par exemple, qui est les bâtiments administratifs, une couche qui est le réseau hydrographique, une couche, etc. Sur les zones d'études de cas, les 11 actuelles plus les 19 qui viendront pour compléter l'ensemble des académies, en plus, nous avons demandé, et l'IGN c'est un gros chantier, hein, à la demande de la Solution Générale, des cartes IGN anciennes, entre 1960 et 1970, en gros la France dans le début de la période des Trente Glorieuses, c'est un chantier qui est en cours actuellement. L'IGN, de toute façon, avait de la part de l'État la demande de mettre en numérique tout son fonds de cartographie. Donc c'est un chantier qui est c'est son cahier des charges pour les années 2007-2012. Et ben ils vont, on va profiter de cela. Ils nous passent en priorité sur le sur ce chantier de scannage, de numérisation de ces cartes anciennes. De la même façon, un certain nombre de collègues sont venus d'ailleurs à Saint-Mandé-l'Igène. Nous avons des photographies aériennes anciennes, pareil entre les années 60 et 80, qui vont être à la fois mosaïquées, c'est-à-dire qu'on va faire un assemblage, et qui par ailleurs seront orthorectifiées. C'est-à-dire que des photos aériennes des années 60-65, en gros, on en a des 65 sur Istres, par exemple, puisqu'il y a une étude de cas qui sera sur Marseille, et Fos. Donc, on aura des mosaïquées, orthorectifiées, voire dans certains cas, aussi corrigées radiométriquement pour qu'on n'ait pas tout d'un coup un passage d'une photographie aérienne très sombre à une photographie aérienne très, très claire. Donc, c'est pareil, le chantier est lancé et ça fait partie de l'accord financier entre l'IGN et nous. Enfin, nous sommes en train de finaliser la convention avec Spot Images, systématiquement des images Spot à 2,50 m couleur à haute résolution, donc avec le satellite Spot 5. On a même fait une programmation de satellite dans certains cas. Alors l'ensemble des fonctionnalités que nous allons avoir, elles seront liées à ce qu'on appelle le géoportail phase 2, c'est-à-dire celui qui est en train d'être développé et que vous verrez commencer à apparaître en gros pour juin 2007 si l'IGN et surtout son prestataire de service tient les délais. Alors je vous ai ici quelques exemples que j'ai demandé à l'IGN. Voilà, c'est donc à peu près ce que représentera le nouveau géoportail. C'est donc, vous voyez que l'ergonomie de la présentation n'a rien à voir avec la situation actuelle. Vous aurez donc un accès à ce globe de façon... Ce ne sera pas un globe du style Google Earth, puisqu'effectivement, l'IGN, par définition, a vocation à travailler sur la France. Plus tard, peut-être que les géoportails européens, quand l'ensemble des pays auront peu à peu fait leur propre géoportail, on aura quelque chose qui sera plus étendu et qui sera peut-être à ce moment-là un globe virtuel. Pour l'instant, ça reste un accès de ce type. L'accès, tout à fait classique, le scan 25, avec ANSI. Des outils, ici, de navigation tout à fait classiques. Vous pouvez personnaliser votre profil avec des phénomènes de transparence bien connus, faire avancer l'image, faire avancer l'orthophoto derrière. Et en dessous, vous avez les outils les données que vous avez sélectionnées qui vont apparaître au fur et à mesure. Voilà, typiquement, donc l'orthophoto, la BD ortho, c'est-à-dire l'orthophoto 50 cm, donc vous reconnaissez ici le casino d'Annecy au bord du lac. Ici, c'est la photographie aérienne uniquement, bien que la carte soit sélectionnée. Mais en fait, on a mis 100% sur la photo. Et voilà. Alors après, vous pouvez rajouter autant de couches, puisque ça fait partie de l'ensemble de la banque de données qui sera dans le géoportail. Vous pouvez rajouter autant de couches que vous voulez, c'est-à-dire un réseau de transport, le cadastre, qui est déjà en train d'être intégré actuellement dans le géoportail phase 2. Donc vous pourrez là aussi faire apparaître de la même façon par transparence telle ou telle couche, ne mettre que le cadastre et le réseau routier, ou bien ne mettre que le cadastre sur la photo aérienne, ou bien etc. Sachant qu'en réalité, voilà ce que vous aurez donc en termes de 3D. Ici, donc, ce sont les SNIEF. Vous avez tous entendu parler des SNIEF. Donc, on a coché ici tout ce que vous aurez sur la partie gauche. Vous aurez toutes les couches potentielles avec la zone sensible, le type d'occupation des sols, la BD topo avec l'inventaire forestier éventuel, la couche géologique, vous verrez tout à l'heure. Et ici, alors c'est pas l'île de Léron qui est prise, on est ici dans un, je sais plus dans quel massif, mais enfin peu importe. Et puis, par exemple ici, vous pouvez aussi avoir tout ce qui est zone sensible dans le cadre des risques naturels. Vous savez qu'on a l'éducation au développement durable qui existe, et c'est commun d'ailleurs à nos deux disciplines. Et donc, vous pourrez tout à fait faire une cartographie temps réel, 3D, de l'analyse des risques naturels à partir du système. Et puis, pour les naturalistes, puisque le BRGM est dans l'accord et que les deux partenaires du géoportail et du géocatalogue pour tout ce qui est visualisation, coucher, etc., et gestion de l'outil, c'est l'IGN. Et pour tout ce qui est le géocatalogage, c'est-à-dire tout ce qui est les métadonnées, et ça c'est important, parce que dans Google Earth, les métadonnées, moi, si vous me dites où elles sont, je serai très content de le savoir. Là, systématiquement, il y aura des métadonnées, tout sera, tous les gens qui sont dans, actuellement dans le géoportail ont l'obligation de donner au BRGM qui gère l'ensemble les métadonnées de tout ce qui sera mis sur le géoportail et accessible. Y compris nous, Éducation nationale. Hein. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on va rajouter quelque chose, dans des accords qu'on peut passer avec le CHOM, on va négocier avec le CHOM, par exemple, pour les littorales, on va négocier sans doute avec l'IFEN, l'Institut français de l'environnement, eh bien, à chaque fois, tout ce qu'on va mettre en plus, l'IFEN donnera les métadonnées très précises et vous pourrez savoir exactement de quoi relève telle et telle couche. Alors, qu'y aura-t-il en plus? Parce qu'après tout, vous allez me dire, finalement, le géoportail va répondre à beaucoup déjà de nos demandes. Qu'y aura-t-il de plus? Alors, à la demande de l'inspection générale, on aura un outil de DAO simple, dans une optique pour les historiens géographes, du croquis de géographie. Hein, c'est-à-dire qu'avec les collègues qui sont dans le groupe de travail, ils ont fait un cahier des charges de cet outil de DAO, de telle façon que la première des choses simples, ça sera que vous puissiez faire en temps réel, en interactif, un travail de croquis géographique en ligne, récupérable. Hein. Tout cela est tout à fait récupérable en local. Et mis aussi sur, par exemple, l'intranet du lycée, si vous voulez qu'ensuite, ou le NT, de telle façon que les élèves puissent faire un croquis, vous les corriger, ou bien vous avez un TBI et vous allez pouvoir reprojeter sur le TBI le croquis de tel élève, le corriger, etc. Donc ça va être la première chose. C'est pour nous, c'est la phase 1 de DGO, c'est la première livraison. Et ensuite, au fur et à mesure, on va vous proposer un outil SIG simple en ligne, avec la possibilité de créer des couches SIG tout à fait classiques, des objets ponctuels, des objets linéaires, une route, un tracé quelconque, je sais pas moi, d'un chemin forestier, d'une limite quelconque, ce que vous pouvez imaginer dans le cadre de votre pédagogie, de vos cours, et du surfacique, c'est-à-dire la capacité d'isoler une zone, par exemple, qui est une zone sensible, par exemple, si vous voulez travailler. Ou bien pour les géologues, quelque chose que vous voulez mettre sur une couche géologique particulière, etc. Qui plus est, vous pourrez, comme dans un SIG, il y aura des données attributaires. C'est quoi les données attributaires? C'est le fait de pouvoir associer à une couche des informations statistiques et pouvoir les traiter. C'est-à-dire que vous pourrez faire un traitement thématique, un minimum de cartographie thématique, et donc sur une zone surfacique, je ne sais pas, qui concerne, on va prendre les résultats électoraux, si vous voulez, vous pourrez très bien avoir une couche attributaire des résultats électoraux de tel et tel futur législatif, par exemple, et les repositionner non plus. Si vous connaissez Geoclip, vous pouvez aller voir en ligne, Geoclip aujourd'hui a fait ça dès hier. Là vous pourrez le faire, mais en plus en le reprojetant sur un fond cartographique, le relief. Est-ce que ça a intérêt ou pas, ça c'est à discuter. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de faire du travail de type classification sur les couches attributaires associées à une couche SIG. Et vous pourrez aussi faire un minimum de requêtes, spatiales ou de requêtes sémantiques, c'est-à-dire du type inclus, etc. Voilà. Donc, et ça, par contre, ne ça sera accessible uniquement sous EduGéo. Hein, c'est-à-dire que c'est pas mis à disposition. C'est vraiment un service autre que le géoportail. Système donc de requêtes simples. On part du principe qu'on n'ira pas demander à des gens de faire des requêtes SQL, etc. L'outil, le cahier des charges techniques précise bien aux prestataires de services qu'il faut absolument que l'historien géographe ou le naturaliste puisse faire des requêtes sans aller se poser des problèmes métaphysiques de comment ça marche, c'est quoi une requête logique, etc. Possibilité de création de points remarquables avec des liens multimédia. C'est-à-dire que si vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé faire une sortie de terrain avec vos élèves, vous avez fait des photos numériques, vous allez pouvoir pointer à tel endroit, voilà, c'est l'église 2 ou c'est le site industriel 2, etc. Et vous allez mettre le point remarquable, hein, et là, vous pouvez y associer la photo numérique ou un document Word ou un PDF ou un etc. Donc, outils de mise en page et d'exportation impression, à la fois bien sûr pour le croquis de géographie, et aussi pour, quand il y aura le SIG, vous pourrez sauvegarder vos travaux SIG et les exporter. Donc les élèves pourront éventuellement partir avec un produit papier, à la limite, ou bien un produit exportable en numérique par ailleurs. Je vous ai dit un espace de partage, donc il va y avoir effectivement un espace de partage qui va permettre de mettre à toute personne, tout collège, lycée, alors ça s'applique de quel niveau à quel niveau. Les collègues du primaire sont aussi impliqués. Hein. Chez nous, le collègue qui s'est occupé des clés USB, qui s'occupe au supérieur du primaire, Jean-Michel Witt, eh bien, s'occupe du primaire sur ce plan-là. Et les collègues du primaire pourront faire l'utilisation des DuGéo avec leur classe de, je sais pas, CM1 ou CM2 ou autre, au même titre qu'il y en a aujourd'hui qui font du géoportail. Donc, ça y est, ça va jusqu'aux UFM. Donc, en fait, c'est du primaire, collège, lycée, UFM, évidemment pour la formation. Cet espace de partage, il y aura aussi un wiki, donc vous pourrez faire des commentaires et échanger des choses, etc. Wiki qui sera dans le cahier des charges, qui sera modéré. Hein. Il y aura une modération très claire, mais vous pourrez faire un travail donc de coopération en ligne. Sur cet espace de partage, vous pourrez mettre le téléchargement des données, puisque sur les 11 d'abord, puis à terme les 30, l'ensemble des données qui seront sur ces études de cas seront téléchargeables directement. Alors attention, ça risque d'être lourd. Hein. Actuellement, le dimensionnement des serveurs qui vont être derrière et du géo, c'est de l'ordre du téraoctet. Hein. Et s'il le faut, on les augmentera. De telle façon qu'on se trouve là avec la possibilité, d'abord on va stocker des images spot complètes. Aujourd'hui, je vous signale quand même qu'une image spot à 2,50 m de résolution couleur, c'est une image qui fait quelque chose comme 1 giga à 1 giga et demi. Et derrière, quand vous prenez de l'image photo aérienne auto-rectifiée à 50 cm, c'est très rapidement 420 à 1 giga de, aussi de mémoire. Vous pourrez télécharger tout cela. Et s'il le vaut, s'il le vous voulez, et si vous avez un SIG, vous passez au niveau 2 et vous travaillez avec un SIG du type SIG simple qui peut récupérer l'ensemble des données, eh bien vous pourrez très bien à ce moment-là travailler indépendamment du géoportail sur un SIG de niveau 2 avec ces données que vous aurez téléchargées. Et vous pourrez faire un travail éventuellement, soit en ligne directement, soit le remettre sur le site de partage. Tout est prévu pour qu'en plus, les métadonnées vous permettront de savoir exactement ce que le collègue a fait, quel est le type d'image, quel est le type de cartographie, quel est le type de BD carto, qu'est-ce qu'il a utilisé, etc. Tout ce qui sera mis sur le site d'échange sera associé aussi avec des métadonnées. Alors, quelles sont les 11 zones thématiques actuellement définies avec l'inspection générale? Une zone de montagne, la région grenobloise. Deux zones portuaires, Le Havre et Marseille. Et on a même reprogrammé par satellite une nouvelle prise de vue sur Le Havre pour avoir les derniers états du port du Havre dans sa version actuelle. Une zone périurbaine qui est la banlieue Est de Paris, que vous retrouverez d'ailleurs en partie avec la plateforme aéroportuaire de Roissy. Ici, et son impact sur le nord de la région parisienne. Une région en reconversion. Le couloir industriel, ben, pour les Lyonnais et l'INRP, le couloir industriel Lyon-Sud de Lyonnais. une zone frontalière, la région de Strasbourg. On a discuté avec l'inspection générale si on prenait plutôt la partie Lille, Roubaix, Tourcoing et puis l'extension, et, ou si on prenait finalement le Strasbourg. Et en final, Michel Agnoral a tranché sur Strasbourg. Un littoral touristique, là aussi on a discuté un petit moment, et finalement ça sera donc la zone Montpellier-La Grand-Motte qui sera prise, donc il faut qu'on recommande une image satellite de plus. Une zone de grande agriculture, la Champagne. Et enfin, on a pris un DOM qui sera celui de La Réunion. Et puis maintenant, on a un appel qui va être envoyé aux IAIPR d'histoire-géographie, mais peut-être peut-il à un moment donné se mettre en relation avec ceux de SVT aussi, pour définir sur les 19 autres académies, puisque là on a des académies, toutes les académies ne sont pas représentées, quels sont vos intérêts thématiques, sachant qu'on est limité par un accord avec l'IGN, c'est une négociation au couteau, je vous assure, à 1500 km² de superficie à l'intérieur de chaque académie. Soit en une seule zone, soit en deux ou trois zones. Et pareil, vous aurez accès à des cartes anciennes, à des photos aériennes anciennes, etc. Vous aurez le même schéma que les 11 études de cas qui sont là. Voilà, merci de votre attention.
Bien, merci. Y a-t-il des questions dans la salle ? On a toujours la demi-heure de retard, mais ça ne fait rien. On va quand même procéder à quelques questions rapides. Alors, François Cordelier,
je peux passer le micro ?
Oui.
Disponible pour tout établissement. Il s'agissait, dans l'esprit du Conseil général, d'avoir un seul cadre de géoréférencement pour toutes les administrations. Et les lycées vont donc acquérir un ensemble de deux DVD avec l'ensemble des données du département 44, en BD ortho. Et ceci absolument gratuitement, y compris la licence de publication. Alors là, je me pose un problème de cohérence entre ça, qui est absolument indispensable, ce qu'on vient d'entendre, et puis des initiatives locales, parce que j'ai entendu parler par le délégué du Conseil général, enfin plus exactement de la préfecture de Nantes, que ça allait être généralisé à l'ensemble de l'académie, avec une expérimentation à Mayenne sur le même modèle économique, c'est-à-dire le Conseil général achète tout et donne la licence à toutes les administrations. Auquel cas, on va avoir un doublage. Et il faudrait voir comment les deux choses s'articulent. Moi, je suis très content, en tout cas, que les données du géoportail soient exportables dans un fichier, dans des formats compatibles avec les SIG indépendants du en ligne, parce que effectivement, l'interopérabilité des données est une chose très importante. Ceci dit, je me pose la question, quand j'ai essayé d'acheter la BD Topo auprès de l'IGN, on m'a envoyé un tarif absolument rédhibitoire. Donc on va avoir des images photos, mais on n'aura pas la BD Topo. Est-ce qu'elle sera exportable à partir de Géoportail ? C'est une question que je pose.
Non, la BD Topo ne sera exportable que sur l'étude de cas qui concernera ta région. Eh bien, ainsi, vous allez en avoir une. C'est-à-dire que dans l'Académie de Nantes, les IAIPR vont se mettre d'accord, y compris éventuellement avec les collègues de SVT, sur le fait de définir des zones qui peuvent vous intéresser.
Oui, alors c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup d'initiatives locales actuellement. Nous, par exemple, nous avons pour nos expérimentations, l'INRP, contacté le Grand Lyon qui, pour des expérimentations pédagogiques, nous a octroyé des droits sur une couverture aérienne résolution 16 cm quand l'IGN ne fait que du 50 cm puisqu'ils sont en train de refaire leur référence actuellement. Mais c'est pas grave, c'est pas pour dire du mal de l'IGN, c'est simplement qu'effectivement, aujourd'hui, l'accès à des ressources gratuites pour des fins pédagogiques, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en pleine évolution, comme l'a montré Michel Vauzel, mais se pose des questions d'interopérabilité, effectivement, entre ces outils, de niveau de compétence, et puis aussi de qu'est-ce que les enseignants vont en faire. Parce que, finalement, la question, si, elle est dans l'accès, mais elle est aussi dans l'usage, c'est-à-dire quel scénario pédagogique et comment vont-ils. Alors, s'ils ont un wiki, c'est une bonne initiative, parce qu'effectivement, ils vont pouvoir partager des choses mutualisées. Mais la question fondamentale, c'est à quelle fin, hein, quel type d'apprentissage, quelle façon. Donc toutes ces réflexions-là qui vont être débattues dans les ateliers, hein, je ne veux pas... Y a-t-il une autre question quand même sur ce qui a été présenté par Michel Vauzel, qui est intéressant, parce que le géoportail, on lui a reproché beaucoup de ne pas avoir d'édition, de fonction d'édition, contrairement à Google Earth. Alors apparemment, il y aurait une fonction d'édition dans GeoEDU. On est content de l'apprendre parce que c'était quelque chose qui manquait beaucoup aux enseignants. Hein, quand on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas produire soi-même ces cartes à partir de données existantes, hein, c'est quand même handicapant. Est-ce qu'il y a une autre question technique ou pédagogique sur ce qui a été présenté?
Non. Les études de cas, il y aura un scénario pédagogique systématique. Hein. Il y a déjà D'accord. des collègues qui sont dans le groupe de travail et qui ont pris chacun un... Bon, je suppose d'ailleurs que Jean-Marc, qui est là, qui, théoriquement, si j'ai bien... Sauf erreur, tu travailles sur Lyon, c'est ça? Ben, on peut se rapprocher tout à fait de vous pour un certain nombre de choses.
Bon, on se connaît, ça tombe bien.
Voilà. Bon.
C'est bon, d'autres questions
Oui. Pour compléter donc ce que a dit Michel, du côté des SVT, nous avons nous une convention avec le BRGM. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que Pierre Nélig était là l'année dernière à vos journées et que je voulais pas faire de redites. Simplement, c'est un dispositif tout à fait semblable, comparable à celui que vient d'évoquer Michel. Et en plus, vous venez de voir que le BRGM et l'IGN sont ensemble sur le projet et du géo, et que le géocatalogage, c'est la partie du BRGM dans ce projet. Il reste que, de la même façon, nous avons sélectionné une série de cartes gratuites. Donc vous avez tous déjà la possibilité d'accéder à 10 cartes au 50 millième complètes. Hein, ces 10 cartes, vous les trouvez sur EducNet, vous les trouvez sur Formateur, vous les trouvez... les accès sont maintenant assez répandus. Il reste à voir ce qu'on peut en faire. Est-ce que je dise quelque chose d'autre?
Peut-être une dernière question.
Oui. Alors, moi, je suis très contente de voir ce projet-là qui répond à des manques, notamment qu'on peut repérer aussi quand on utilise Google Earth. Je pense aux requêtes, je pense à des données, une masse de données qui sont super intéressantes. Je suis un petit peu réticente. J'ai toujours une réticence, je crois que Michel, il va me reconnaître là-dedans. Mais dans le fait qu'on ne peut partager, si j'ai bien tout compris, que dans un espace qui est protégé par mot de passe. Or, les usages en géomatique ne se développeront que par l'exemple. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, ce que j'aime dans cette journée, c'est qu'on voit des choses et que ça donne envie. Si j'ai quelque chose à montrer aujourd'hui, c'est que j'ai vu quelque chose l'année dernière. Donc, je pense que par l'exemple, on peut développer... c'est seulement comme ça qu'on peut développer ces usages qui paraissent aux gens encore un peu compliqués. Donc là, je vois un petit bémol, quoi. Je suis un peu triste de ça.
Oui, mais le bémol, il est au fait que quand tu vas sur l'INA, entre le service INA grand public et le service INA éducatif, pour lequel tu as un abonnement, tu n'as pas les mêmes services. Le modèle économique, c'est celui-là qui est appliqué. C'est-à-dire que tu peux aller sur le géoportail, tu auras l'accès aux produits grand public du géoportail, version 2. Mais on nous a demandé d'appliquer un modèle économique et l'IGN. Le modèle qui était le plus simple, c'était effectivement celui qui était proche de l'INA.
Si je peux me permettre, le modèle, effectivement, l'INA, je connais un tout petit peu parce qu'on est en discussion là, mais l'INA est très protégée aussi, mais... Sur notre site des Clionautes, on a réussi à mettre en ligne des fiches qui, bien sûr, ne mettent pas directement les données de l'INA, mais il y a des liens vers les vidéos qui, elles, peuvent être vues sans abonnement.
Vers les vidéos donc sans abonnement.
Ouais. Voilà, on ne peut pas télécharger la vidéo, mais ça permet quand même d'avoir une idée de ce qu'on
peut
faire.
Mais à la limite, tu pourras faire la même chose, c'est-à-dire que tu pourras toujours mettre un lien vers le géoportail grand public. Simplement, c'est que ce qui sera spécifique. Au travail pédagogique fait sur les 30 études de cas ou sur autre chose, effectivement, là, elles seront sous l'hypothèse de l'abonnement.
Mais alors, je poursuis un petit peu. Par exemple, des productions qui seraient faites à partir des données du géoportail, intégrant des couches de les INEF, par exemple, et on ne pourra pas les mettre en libre accès pour tout usage éducatif sur un site quelconque, si je comprends bien. On fait des travaux aussi. Les réalisations qui seront faites à partir des différentes couches originales, est-ce qu'elles seront les productions, est-ce qu'elles seront, elles,
les productions, je l'ai dit tout à l'heure, les productions, elles, sont libres de publication.
D'accord.
Sur le site du lycée, du collège, de l'académie, etc.
En libre accès.
En libre accès. Par contre, les données, pas les données.
Pas les données,
mais le travail, la production des élèves, la production du prof, seront, par contre, totalement en libération de droits de publication électronique.
D'accord, ça va mieux en le disant, parce que la fin de la dernière phrase l'image sur les droits était un peu ambiguë. Alors c'est vrai qu'il y a les données, mais il faudrait peut-être préciser, par contre, que les productions à
les
partir
productions,
des données sont, elles...
C'est, ça, voilà. C'est inscrit dans la convention, il n'y a pas de problème.
Merci.